Et sinon, pour nous autres, eh bien, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains. Donc, l'épître de Paul aux Romains et au chapitre 2. L'épître de Paul aux Romains et au chapitre 2. Donc, nous continuons dans cette série d'études, hein, avec l'épître aux Romains, depuis le début de l'année, là. Donc, La semaine dernière, nous avons vu le chapitre 1, la deuxième moitié du chapitre 1. Et c'est là où l'apôtre Paul a commencé à s'adresser à différentes catégories de personnes qui se trouvaient à Rome. Et la semaine dernière, nous avons vu ces personnes qui ont vu, ils ont compris que Dieu est, qu'il existe, ils ont même discerné certains de ses attributs, mais qui ont fait le choix de se détourner. Et plutôt que de l'adorer, de le glorifier, eh bien, ils se sont endurcis, se sont détournés, et donc ça a donné des résultats pas très beaux, hein. Ensuite, donc, le chapitre 2 va présenter encore quatre catégories de personnes. Le chapitre 2, à partir du verset 17 jusqu'à la fin, va parler du juif, hein, va s'adresser. Donc, la semaine dernière, on a vu, il parlait aux païens, plus strictement. Et là, la deuxième moitié du chapitre 2, il s'adresse surtout aux juifs, qui ont besoin du Seigneur aussi. Mais là, la première partie, donc les premiers 16 versets que nous allons voir dans Romains chapitre 2, eh bien là, il s'adresse un peu à tous. Hein, parce que vous voyez comment ça commence, au homme, qui que tu sois. Hein, donc voilà. On va se retrouver là, et là il va traiter de trois différentes catégories de personnes. Il dit au homme, qui que tu sois. Là, il va dire au verset 9 et 10, il va dire aux juifs et aux grecs. Au verset 11, il va dire Dieu, il ne fait point de favoritisme. Hein. Et puis, à la fin, au verset 16, il dira c'est ce qui paraîtra au jour, où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes, tous, hein, des êtres humains. Donc, cette partie-là, c'est en fait, il va traiter trois catégories de personnes. La première, ce sont ceux qui jugent les autres, mais qui ne le pratiquent pas eux-mêmes. Hein. Je sais pas, je crois pas que j'ai besoin de prouver que ça existe. Hein. Vous avez déjà vu ça. Et puis, la deuxième catégorie, c'est ceux qui méprisent la bonté, la patience de Dieu, et puis qui endurcissent leur cœur. Et puis la troisième catégorie, c'est ceux qui ne pratiquent pas ce qu'ils savent être justes. Hein. Donc je vais d'abord lire le passage, donc les 16 premiers versets du chapitre 2, vous y êtes tous, hein. Je vous ai donné le temps de trouver, et on va suivre ensemble. Donc, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de la bonté, de la patience et de la longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par un esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, la première catégorie que nous allons voir, ce sont ceux qui sont mentionnés dans les premiers trois versets, là. Donc, ceux qui jugent les autres. Hein, et il commence par lui dire, « Ô homme qui juge, toi qui juge, tu es donc inexcusable. » Vous savez, ça va tout à fait avec ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 7, 1 à 5. Je ne vais pas tout lire, mais... Là, dans ce passage, il dit « On vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Il dit tu appliques une certaine loi, peu importe où tu l'as trouvée. À partir du moment que tu l'appliques, eh bien, tu en es redevable. Et c'est le problème des humains, et toutes les religions ont le même problème. Ils ont des gens qui enseignent des choses, qui imposent des choses et qui fatiguent des gens, et puis eux-mêmes, ils ne pratiquent pas. Ces gens-là, on les appelle normalement les hypocrites. Hein. Vous avez déjà entendu parler, on dit hypocrites. C'est pas un compliment. C'est le mot qu'on emploie pour ceux qui prétendent pratiquer alors qu'ils ne pratiquent pas, qui prétendent être attachés à une science et qui ne le pratiquent pas. Et donc on trouve, parce que le mot hypocrite, c'est le mot grec qui veut dire un acteur. Hein, donc il agit comme une autre personne que ce qu'il est. Lui, il est une personne et il agit comme s'il était quelqu'un d'autre. C'est un acteur de théâtre et donc un hypocrite. Mais vous savez, le Seigneur dit, il n'y a pas d'excuse pour ceux qui savent ce qu'ils doivent pratiquer et qui ne le pratiquent pas. À partir du moment que tu l'imposes sur quelqu'un d'autre, c'est que tu es au courant. Donc tu en es responsable. Et Dieu te dira, tu te souviens ce que tu as dit à un tel ? Eh bien, je te l'applique. Et la dureté que tu as eue avec telle personne, eh bien, je l'aurai avec toi. C'est vrai aussi, et j'ajoute ça, c'est que la patience que tu as eue avec un frère, eh bien, le Seigneur exercera cette même patience avec toi. Il dit, on te mesurera, ça va dans les deux sens, hein, on te mesurera, on agira avec toi comme tu as agi avec ton frère. C'est très difficile pour des gens qui se croient de bons chrétiens, qui sont justes, tout ça. C'est très difficile pour eux de rester humbles et de ne pas essayer d'imposer sur les autres ce qu'ils pensent. Mais ils prennent de gros risques. Et nous devons faire très attention. Et je ne vais pas aller plus loin parce que ça me concerne aussi. Hein, je dois faire attention. Hein, il faut être honnête. Hein, c'est ce que j'impose à quelqu'un, il me dira, tu te souviens ce que tu as dit ? Et qu'est-ce que tu as fait ? Et puis là, après, on a la bouche fermée. Certains se servent de ces hypocrites-là pour ne pas aller à l'église. Ça leur donne une bonne excuse. Ils disent, ouais, c'est rempli d'hypocrites. Bon, écoutez, le monde aussi, il est rempli d'hypocrites. Hein, donc, ne me dites pas que vous allez rester dans le monde, parce que là-bas, il n'y en a pas. Hein, mais, écoute, je n'ai pas né la dernière pluie, là, et j'en ai rencontré partout. dans toutes les religions et même ceux qui n'ont pas de religion. Vous savez, ce n'est pas parce qu'un élève, ne cesse pas d'aller à l'école parce qu'il y a des gens qui trichent à l'école. C'est pas, moi, si je m'étais arrêté dès que j'ai rendu compte qu'il y avait des gens qui trichaient dans la classe pendant les contrôles, il y a longtemps, je crois que je me serais arrêté au CP. Mais on continue. Puis ils trichent. Mais donc on n'arrête pas d'aller à l'école, à l'église non plus, parce qu'il y a des gens qui trichent. C'est leur problème, ils trichent. Et ceux qui trichent, ça marche pendant un temps, mais il y a un moment, ça ne marche plus. Et les hypocrites, ils ne restent pas à vie dans l'église. Il y a un moment, ça... Vous savez, c'est dur d'être hypocrite. C'est fatigant. Parce qu'on fait ce qui n'est pas naturel. Quand c'est naturel, ce n'est pas fatigant. Mais quand ce n'est pas naturel, et d'être quelqu'un d'autre, c'est épuisant. Et il ne dure pas pour toujours. Donc, restez dans l'église. Ils passeront. Et l'œuvre de Dieu continuera. Mais il ne faut pas avoir les yeux sur les autres. Il faut garder les yeux sur le Seigneur. La brebis ne regarde pas les autres brebis, elle regarde le berger. Ça m'arrive des fois, sur l'autoroute, de faire des excès de vitesse. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis en train de suivre une autre voiture. Et donc on la suit, puis lui il accélère, et puis on accélère, puis d'un coup on se rend compte, oh ! Et il dit, non, ben c'est pas comme ça que tu conduis, c'est pas en suivant les voitures, tu suis ton chemin sur l'autoroute. Et finalement, dans la vie, même dans la vie d'église, parfois on a des automatismes, et puis on commence à faire ce que font les autres, et on se laisse entraîner, puis c'est plus spirituel, c'est de la copie. Et le Seigneur dit arrête. Garde les yeux sur le Seigneur. Verset 2 de ce chapitre, donc Romains chapitre 2, verset 2, il dit « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Ça, vous n'avez pas besoin. Vous prenez même les gens du monde, vous leur dites, écoute, Dieu, c'est pas bien de juger les autres et de ne pas pratiquer soi-même. Alors, même eux, ils sont convaincus. Donc, il a dit, c'est la vérité, c'est dans le cœur de tous, et il n'y a pas de problème. Donc, il dit, c'est déjà une première évaluation. Je dois regarder à mon cœur, pas les autres, moi-même. Vous savez, il y a un cas classique dans la Bible. On en a parlé tout à l'heure, le roi David, quand il avec son problème de Bathsheba, il avait réussi à cacher. Bon, ça lui a quand même, il a commis des fautes graves pour pouvoir le cacher, mais il était arrivé au point où il croyait que ça y est, il n'y avait plus personne qui pouvait l'accuser et qu'il c'était bon. Alors il faisait semblant d'aller bien. Bon, on a lu le psaume 32 tout à l'heure, on voyait qu'en fait, au fond de lui, il souffrait terriblement. Et que c'était un soulagement le jour où il a pu confesser. Mais David, allez, et puis un jour, Nathan, le prophète Nathan, vient voir David, il dit, David, tu sais, il y a un truc qui est arrivé ici, dans ton royaume, là, il faut que je t'en parle. Il dit, vas-y, je donne une interprétation moderne, Vous pourrez lire ça dans 2 Samuel, chapitre 12, vous avez l'histoire. Et il dit, il y avait un homme riche, il avait plein de brebis. Puis un peu un soir, il y a un visiteur qui passe, puis il voulait lui offrir quelque chose. Mais comme il ne voulait pas prendre une de ses brebis, il a pris celle de son voisin, un pauvre, qui n'avait qu'une seule, et qu'il élevait dans sa maison comme sa fille. Et il a pris cette brebis-là, et puis il l'a offert. Et David, tout d'un coup, il dit, « Ah, ça va pas, ça. Ça, c'est grave. Cet homme-là, il doit être jugé. Il rendra 4 brebis pour ce qu'il a fait. » Et là, c'était la colère devant l'injustice. Et Nathan, il dit, « David, c'est toi. Comment ? Eh bien oui, toi, tu as le palais, tu as toutes les épouses que tu veux. Et puis, il y avait ce guerrier à toi. » Qu'il avait sa femme et tu l'as prise pour toi. Et bon, c'était. Il était prêt à condamner quelqu'un d'autre alors que lui, il avait commis pire. C'était le cas classique. Et vous savez, des fois, et les gens hypocrites, en général, ils sont les plus durs. Hein. Ils sont très... Parce que notre cœur nous accuse. Donc, avec la bouche, on essaie de paraître encore plus spirituel que les autres. Et c'est la tromperie, mais ça ne trompe pas pour toujours. Hein. Éventuellement, ça ressort. Mais y a une souffrance intérieure. Et donc... Là, au verset 3, il dit, et puis c'est une question de rhétorique, hein, là, il dit, « Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Il dit, « Tu crois que... » Il dit, « David, il a été attrapé, hein, et tu n'es pas meilleur, tu crois que tu échapperas ?» Et en disant de cette manière-là, finalement, la réponse... Eh bien, la réponse est non, hein. On sait. C'était un peu ce que disait Moïse. Vous savez, quand ils sont rentrés dans le pays Canaan, il y avait deux tribus, Gad et Ruben, qui ont dit, Moïse, écoute, nous, on veut rester de ce côté-ci du Jourdain, on a beaucoup de troupeaux, et puis là, il y a beaucoup de pâturages. Mais on promet... On accompagnera les autres jusqu'à ce que les autres tribus aient leur territoire, puis ensuite on reviendra. Et c'est dans Nombre 32-23, Moïse leur dit, ne vous y trompez pas. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. C'est un verset que j'ai appris très jeune. Mon papa, il m'a dit dans une circonstance où j'avais cru avoir caché un péché. Et puis finalement, ça a été découvert. Et puis alors, papa, aide, il dit, va voir Nombre 32-23. Et alors, depuis que je l'ai lu, je l'ai lu une fois et c'est resté. La preuve, c'est encore là, hein, 50 ans plus tard. Mais sachez que votre péché vous atteindra. Il a dit, non, ça, il y a un jour où ne crois pas que tu vas échapper. Et c'est là que l'apôtre Paul dit aux Galates, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Hein, vous semez des radis, vous avez des radis. Vous semez des épines, vous aurez des épines. C'est une loi qui a été appliquée à la création et ce n'est pas autrement. Et ça touche pas seulement les graines, les bonnes graines et les mauvaises graines, mais ça touche toutes nos vies. Hein, c'est un principe dans la nature que Dieu a établi. Ce qu'on sème, on récolte. Il dit alors, tu penses que tu échapperas. Hein, c'est pas parce que tu t'élèves et tu condamnes que personne ne te verra. Dieu voit. Et toi, tu vois. Hein, je sais pas comment ces gens-là, t'imagines, mais eux, ils le savent. Et tant que je sais ce que je fais, comment est-ce que je peux me sentir très bien? Et la recommandation de 1 Jean, c'est « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Hein, » Il dit « Écoute, c'est pas ce que tu dis qui importe, c'est ce que tu vis qui importe. » Et dis-le avec les actes. Les gens, ils comprendront mieux que ce que tu dis avec, hein, n'importe qui peut parler, bien parler, mais tout le monde ne peut pas vivre la pensée de Dieu. Donc il dit d'abord cette catégorie-là, ces gens qui condamnent les autres, mais finalement ils font exactement la même chose. Il dit ces gens-là, il dit ils sont inexcusables, hein, c'est ça qu'il dit au verset 1. Il n'y aura pas d'excuse, tu n'auras rien à dire devant Dieu. Et il te jugera et tu n'auras rien à dire. Parce que ça, tout le monde le sait, chrétien ou pas chrétien, tout le monde le sait, ça ne passe pas, ça. Il passe aux deuxième catégorie, du verset 4 jusqu'au verset 11, il parle de ceux qui méprisent la pensée, la bonté de Dieu et la patience de Dieu. Il nous dit que la réaction normale, lorsque tu ressens la bonté de Dieu, tu ressens la patience de Dieu, la persévérance de Dieu dans ta vie, eh bien, la réaction normale, c'est la repentance. Ce n'est pas un mot courant, hein, vous n'allez pas apprendre ça à l'usine. Mais le mot repentance, c'est le mot qui veut dire faire demi-tour, je change de vie, hein, je prends une autre direction. Il dit, quand tu te trouves devant la bonté de Dieu, la patience de Dieu, la persévérance de Dieu, l'indulgence de Dieu, il dit, eh bien, tu changes de vie. Ça, c'est la réaction normale. Donc, si tu ne le fais pas, c'est que tu t'es endurci. Tu as refusé. Hein. Quand tu n'as pas fait ce qui est naturel, c'est que délibérément, tu as choisi de faire autrement. Et à partir du moment que c'est délibéré et que toi, tu l'as fait, tu es responsable. Et Dieu, en plus, il nous dit, tu es en train d'amasser un trésor. Mais pas un trésor de richesse. Mais en train de... c'était quel verset, là ? Un trésor de colère. Il est en train d'amasser. Vous savez ce que c'est amasser ? Ça veut dire, c'est un peu comme ramasser les olives. La main est un petit peu, mais on accumule. Hein. Il dit, tu es en train de faire... Quand tu mets ce choix-là, délibérément, alors que la réaction normale à ce que Dieu a fait pour toi, quand tu saisis, tu comprends que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Lui, il avait, comme disait l'un des brigands à son voisin, il a dit, mais lui, il n'a rien fait. Il n'a pas à être là. C'est pour nous qu'il est là. Et c'est pour ça qu'il s'est tourné vers Jésus, il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Il dit, quand je vois ça, qu'est-ce que je vais faire? Je me détourne, j'oublie, et puis je m'endurcis. Il dit, mais ça, tu te mets dans une situation condamnable. Et il faudra rendre des comptes. Il dit, en fait, il a décrit deux modes de vie, là. Au verset 7, il nous parle de. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il dit ça, c'est une manière de répondre à la bonté et la fidélité de Dieu. Et puis ensuite, au verset 8, le verset suivant, il dit « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Il n'est pas en train de dire que celui qui, au verset 7, donc celui qui persévère à faire le bien, cherche l'honneur, la gloire, l'immortalité, ben il aura la vie éternelle. Non. C'est celui qui a la vie éternelle, eh bien, aura cette vie-là. Hein, c'est caractéristique. Tandis que celui qui a endurci son cœur, eh bien, lui, il prendra une autre option. Et lui, eh bien, il a un esprit de dispute. Il est rebelle à la vérité et obéit à l'injustice. Et c'est délibéré. Il y a des gens qui... Ils sont constamment irrités, ils sont toujours en colère, ils sont partout ils passent, ils créent. C'est des gens malheureux. C'est pas parce que il y en a d'autres qui vivent hein, la même situation et ils parlent pas comme eux. Mais c'est que dedans ça bouillonne. Ils sont malheureux dedans. Et alors ceux qui sont pas heureux, et bien ils critiquent tout. Hein, et c'est pour ça que nous en tant que chrétiens français, eh bien on ne peut pas se comporter comme les autres et tout le temps en train de râler, tout le temps en train de... Non, je suis heureux au-dedans de moi. Oui, je vois les problèmes. Mais ce sont des problèmes extérieurs. Moi, au-dedans, j'ai la paix du Seigneur. Donc, je veux aider où je peux. Je prie pour notre gouvernement. Nous prions pour notre président. Nous prions pour ceux qui sont au pouvoir. Et que Dieu ait une influence sur eux. Parce que c'est dans notre intérêt. Parce qu'on vit quand même, hein, on est français, hein. Mais il dit, mais celui qui est constamment, là où il passe, il rentre à la maison, ça chauffe. Il va au travail, il y a des ennuis. Celui-là, c'est un gars qui est vraiment malheureux. Et il a besoin du Seigneur, surtout. Il dit, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Verset 9, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Et il dit, et cela, ces deux catégories, c'est vrai pour le juif premièrement, puis pour le grec, dit Bon, je croyais qu'il ne faisait pas de distinction. Si, foncièrement, il n'y a pas une distinction, mais il dit le juif, premièrement, parce que, vous savez, lui, il a reçu beaucoup d'enseignements. Il a reçu les révélations du Seigneur. Il a été exposé à beaucoup. Et il dit, en fait, il est plus responsable. Celui à qui beaucoup a été donné, eh bien, est plus responsable. Il dit, il y a une différence entre celui qui a connu l'Évangile et qui a été exposé à cela et ses valeurs, tout ça, et puis qui se détourne. C'est plus grave que celui qui n'a jamais connu et qui découvre et qui arrive comme il peut. En fait, il nous dit dans Luc 12, 48, il nous dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. » Et donc, il dit le juif premièrement, parce que lui, il a reçu la révélation et c'était à lui de la transmettre au reste du monde. Mais non seulement il ne l'a pas transmis, mais il ne l'a même pas pratiqué lui-même. Et donc, il est dit, bon, c'est déjà grave pour lui. Et puis ensuite, mais il va parler, et on verra dans la catégorie suivante, que même celui qui n'a jamais entendu parler de la Bible, ni la parole de Dieu, est quand même condamnable devant Dieu, et il a besoin de revenir. Hein, donc, l'ignorance ne justifie pas, elle n'est pas là pour nous défendre. Et il nous dit, et devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Il ne fait pas d'acception. Hein, c'est pareil pour tous. Nous sommes... Là, en fait, le message qu'on va ressortir d'ici, c'est finalement, il y a personne qui peut prétendre être acceptable de Dieu. Hein, parce que, quelque part, d'une manière ou d'une autre, tu as mal agi. Et on a tous besoin du Seigneur. La troisième catégorie, eh bien, c'est du verset 12 au verset 16. Ceux qui savent ce qu'ils doivent faire et puis qu'ils ne pratiquent pas. Et c'est intéressant là parce qu'il est en train de parler de ceux qui ont connu la loi et de ceux qui ne l'ont pas connue. Et il dit finalement ceux qui n'ont pas connu la loi de Dieu, comme ceux qui l'ont connue, se trouvent tous sous la condamnation. Pourquoi ? Parce que ceux à qui il a donné la loi ne l'ont pas gardée. Donc, ils sont condamnables. Et ceux qui n'ont pas reçu, qui n'ont jamais entendu les 10 commandements, par exemple, eh bien, ce n'est pas pour ça qu'ils ne savent pas qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas commettre adultère, qu'il ne faut pas commettre le meurtre. Ils le savent. Vous allez prendre n'importe quelle culture, et c'est là, hein. Parce qu'il y a une réalité qui est là dans l'être humain. Et ce n'est pas matériel, ce n'est pas organique. C'est ce où l'être humain, quand il est dans son bon sens, hein, eh bien, il sacralise la propriété, l'épouse et la vie. Le bien d'autrui, l'épouse d'autrui et la vie d'autrui. Ça, il y a quelque chose qui est dans l'être humain. Quand tu le laisses, il fait ce qui est naturel et il va reconnaître que c'est vrai. Bon, malheureusement, c'est que dans notre société, finalement, ces trois vérités-là, on est en train de le détruire. Vous dites, écoutez, le vol, ben vous assurez. Hein, vous prenez une assurance et puis comme ça, vous couvrez. Hein. On vous vole la voiture, ben écoutez, vous avez une assurance. Comme si c'était moins grave. Dans l'Ancien Testament, il disait, si tu voles une voiture, tu en rends quatre. T'amuses pas à voler des Mercedes, hein, ça peut coûter cher. Et ça coupe l'envie, hein. Ça c'est sûr. Il n'y a pas besoin de prison hein, pour couper l'envie, là. Mais, et puis, il dit finalement, si l'homme qui n'a jamais entendu les commandements, mais il sait déjà qu'il faut protéger le bien d'autrui, l'épouse d'autrui, la vie de l'autrui, eh bien, il dit, et s'il ne le fait pas ? Il dit, écoute, tu le savais, non ? Tu savais que ce n'était pas bien. Et tu l'as fait. Donc, tu es coupable. Ce n'est pas moi qui suis méchant. Dieu n'est pas méchant. Il a dit, mais j'ai plus rien, c'est toi. Tu l'as fait, tu savais, tu l'as fait. Je suis obligé de te condamner. Maintenant, Dieu, dans sa bonté, il vient nous parler, il nous dit, écoute, je vais te parler avant que le jugement arrive, je viens t'en parler, je te dis, écoute, tu sais, il y a ça qui ne va pas dans ta vie, il y a ça qui ne va pas, et ça, le jour où tu devras passer devant le jugement, c'est ça, hein, c'est ce qui a écrit qui passe. Il dit donc, je t'avertis à l'avance, et je te dis, je te donne une adresse où tu peux aller, et tu peux obtenir le pardon pour tout cela. Ça s'appelle Golgotha. Hein? Un rue Golgotha. Tu vas là, tu rencontres Jésus-Christ, et tu lui dis, je sais que je suis pécheur. Peu importe si tu as été élevé dans l'islam, ou l'hindouisme, ou dans l'athéisme, ou dans même une église protestante, même, et puis pour moi, fils de pasteur, et ça n'a pas changé. Hein? Et il dit, peu importe, tu es condamnable, tu es inexcusable. Et donc, en tant que Dieu juste, je dois te condamner, mais dans ma bonté, je viens t'avertir à l'avance, et je te dis où tu peux obtenir le pardon. Et là, si tu as le pardon, tu viens me voir, quand il faudra venir me voir, eh ben, j'aurai rien à te dire. Ça s'appelle la bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus a dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Il dit, il y a un moment où ça va sortir. Et déjà, il y en a, hein, ce mouvement MeToo, hein, là, il a fait sortir des squelettes du placard. Et c'est pas drôle pour ceux qui sont là, eux, qui croyaient avoir enterré tout ça. Et ça vient les hanter. Mais c'est pas encore le jour du jugement, ça. C'est seulement ça, c'est dans la société, et ça ne touche que certains. Hein. Si vous n'avez pas d'argent, ça sort pas. Si vous avez de l'argent, ça sort. Mais c'est l'injustice encore chez les hommes, mais il dit, un jour, ça sortira devant Dieu. Et il dit, ce jour-là, eh bien, les squelettes sortiront au grand jour. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'aller voir tout seul, personnellement, d'aller prendre un entretien avec Dieu. Et Dieu est tellement envie de nous entendre que peu importe où on prend le rendez-vous, il est là. Et il dit, Dieu, je sais que j'ai mal agi. Peut-être je ne connais pas tous les péchés que j'ai commis, je ne sais pas encore ce que tu penses de tout ce que j'ai fait, mais j'en connais assez pour savoir que je suis condamnable. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir amassé un trésor de colère. Vous savez comment c'est la justice américaine, là, il y a un jugement sur chaque faute. Et ça s'accumule, alors le gars, il se retrouve avec 250 ans de prison. Il dit, waouh. Mais en fait, il dit, tu accumules un trésor de colère. Et là c'est 250 ans sur Terre, c'est pas possible, mais dans l'éternité, c'est possible. Et il vient, il dit, écoute, va prendre rendez-vous avec Dieu, parle-lui, dis-lui, je sais que tu es un Dieu d'amour. Je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Tous mes péchés. Je viens et je te demande d'appliquer ce que Christ a fait sur la croix, de l'appliquer à ma vie. De me purifier par le sang de Jésus-Christ. De me donner le pardon. Et vous savez, il est tellement disposé à le faire qu'il fera à l'instant même. Regardez ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Lui qui était Il a dit, j'étais même un criminel, j'ai dit, j'ai le plus grand des pécheurs parce que j'ai persécuté l'Église, il a dit. C'est encore plus terrible que tout le reste. Puis il dit, il a usé de miséricorde. Il m'a fait grâce. Et je vis pour lui maintenant. Et tellement, avant, c'était un homme libre qui faisait ce qu'il voulait pour Dieu, mais il s'est trouvé plus heureux en étant esclave de Jésus-Christ. Et c'est là où il a trouvé sa joie. Il nous dit, en 1 Jean chapitre 3, et je termine avec ce verset, il dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. » Il dit, et si vraiment tu crois cela, vraiment tu penses cela, ça changera ta vie. Et tu n'auras pas besoin d'essayer de juger les autres et de mettre attention sur les autres pour qu'on ne voit pas tes défauts à toi. Mais tu les reconnaîtras devant le Seigneur et tu auras son pardon. Et vous savez, une fois qu'on est pardonné, on arrive à parler de nous-mêmes. Hein? Je connaissais, il y avait quelqu'un qui venait à l'église, il avait un gros problème d'alcool, mais il tout en train de couvrir, faire semblant et prendre toutes sortes de choses, des précautions pour que personne ne le devine, alors que vous savez, c'est difficile à cacher. Mais une fois qu'il est venu au Seigneur, il a obtenu le pardon du Seigneur, après lui, c'est lui-même qui disait, vous savez, avant, l'alcool, je me levais le matin, la première chose, c'est un verre. Et la dernière chose, le soir, c'était un verre. Et toute la journée, il a dit, il n'était pas ivre, il était alcoolique. Mais il n'y avait que ça. Mais après, c'est lui qui en parlait. Pourquoi ? Parce qu'il est pardonné. C'est plus un jugement sur lui. C'est quelque chose que ben, ça a été pardonné. Et donc, je veux t'en parler pour te donner de l'espérance, pour te dire qu'il y a une réponse. Et vous savez, c'est ça la beauté de l'évangile de Jésus-Christ. Oh, que le Seigneur nous aide. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que l'Esprit a utilisé pour vous parler, pour vous personnellement, mais nous allons prendre 2 minutes là, de silence, où vous pourrez dire au Seigneur, « Seigneur, tu m'as parlé au sujet de cela, et je veux m'en occuper, je vais régler ça, mais peut-être pas tout de suite, je te promets, mais je veux régler ça tout de suite, avant la fin de la journée, et puis mettre les choses en règle avec toi, parce que je veux te plaire. » Ou parce que j'ai besoin de commencer une nouvelle vie avec toi.